hombres y mujeres o casados de casar. Si es decir, totalmente que...
Moi, si Céline de Bourgogne, au cas d'orage, je pense qu'on peut, en combinant les deux, effectivement, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour et merci d'être bien présents et très nombreux comme d'habitude, prêts à participer à votre émission Parole aux auditeurs de l'étranger où vous êtes ou ici même en RDP. Nous entendons flatter demain 26 juin 2009, c'est la journée internationale de soutien aux victimes de la torture. Est-ce que la torture est pratiquée en RDP? Et si c'est le cas, que faire pour bannir de la RDP cette pratique digne d'un autre siècle, la RDP ayant choisi par sa constitution d'être un état de droit? Votre opinion ou vos différents témoignages sur cette question sont les bienvenus dans cette émission. Nous avons avec nous dans cette émission pour vous répondre. Nous aurons avec vous dans cette émission pour vous répondre, on l'espère bien, Maître Oupio Kakoura. Il est ministre des droits humains du gouvernement central. Il n'est pas encore en ligne. Mais dans ce studio de Radio Capi, nous avons un autre invité, Fernandez Mourola. Il est coordonnateur national du COGESPI RDP, chargé des programmes du RENADOC et vice-président du réseau des organisations de lutte contre la torture en Afrique centrale, ROLCAT. Bienvenue à tous dans ce grand forum.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet pa@radiookapi.net.
Bonjour Monsieur Fernandez Mourola.
Bonjour.
Vous êtes chargé des programmes au sein du réseau national des ONG des droits de l'homme de la RDP RENADOC en sigle. En des termes simples, c'est quoi la torture en fait?
En fait, la torture, c'est tout simplement un traitement cruel, inhumé et dégradant, infligé à quelqu'un pour qu'on obtienne de lui des aveux. Ou d'une manière ou d'une autre, on peut dire également que la torture, c'est toute forme de violence qu'on peut infliger à quelqu'un.
Voilà, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de tortures qui sont pratiquées ici en République démocratique du Congo?
Ah, il y a plusieurs sortes de tortures. Il peut y avoir, quand on vous arrête arbitrairement, on commence à vous infliger des coups. C'est déjà la torture. Quand on viole une femme, c'est déjà la torture.
Quand, c'est selon le statut de Rome, hein?
Oui, exactement. Et donc, il y a plusieurs sortes de tortures. Dans ce pays, vous savez, il y a plusieurs prisons, plusieurs lieux carcéraux, plusieurs même cachots souterrains où on pratique de manière systématique la torture.
J'ai suivi l'invité du jour ce matin et il y a le président de l'AZADO, l'AZADO qui va d'ailleurs publier un rapport sur les tortures en République démocratique du Congo. Elle a compilé à peu près 500 cas de torture pour l'année passée 2008, dont 400 cas ont été authentifiés. Parmi les tortures, Maître Tapiamba, le président de l'AZADO, parle de on vous met dans un cachot sans aération, on peut vous jeter dans l'eau chaude, est-ce que c'est ce qui arrive parfois ici dans ce pays?
Oui, dans ce pays, il y en a plusieurs cas, plusieurs sortes de tortures. À ce jour, on peut énumérer environ une trentaine de cas, des pratiques de torture, et c'est varié selon les milieux carcéraux et selon les pratiques. Vous savez, dans notre pays, la culture des droits de l'homme n'est pas encore, n'existe pas encore et ça pose problème. Et donc, la torture est banalisée et les autorités pénitentiaires appliquent la torture de la manière la plus systématique. Donc, le recours à la torture, tant physique et mentale, est une pratique tout à fait généralisée et au demeurant banalisée au quotidien pour tous ceux qui ont le malheur de tomber dans les mailles des forces armées de la RDC, de la police nationale ou des services de sécurité.
Voilà. Est-ce qu'il faut généraliser tous les services de sécurité, toute la police nationale, toutes les forces armées, ou ce sont des éléments peut-être incontrôlés, ou certains éléments de ces services qui les pratiquent?
En tout cas, de manière générale, je peux dire que la pratique de la torture peut être évaluée à 70% dans les milieux carcéraux de ce pays.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes avec nous tout au long de cette émission. Nous espérons également que Maître Oufio Kakoura, le ministre de Droits Humains, va nous rejoindre puisqu'il avait promis de participer à cette émission. Nous avons déjà en ligne un auditeur qui s'appelle Aimé. Cet auditeur, c'est une auditrice, je pense, Aimé. Elle intervient à partir de Kinshasa. Bonjour Aimé.
Bonjour Claude.
Voilà, donc c'est quoi votre contribution par rapport à la torture en RDC?
Par rapport à la torture...
Est-ce qu'elle est pratiquée, la torture d'après vous en RDC?
Bien sûr que dans notre pays, il y a plusieurs pratiques. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de ce genre de pratiques dans notre pays.
Vous en avez des preuves? Lesquelles? Donnez-nous ces preuves.
Vous savez, il y a dans certaines instances de la police judiciaire qui pratiquent ce genre de pratiques, ce genre de torture. Il y a, par exemple, des gens qui sont arrêtés, qui sont mis dans des cachots de la police, qui sont torturés, qui sont fouettés chaque matin. Il y a même des policiers qui viennent pour arrêter des gens et qui commencent à donner des coups sur les personnes sur qui ils vont arrêter.
Vous l'avez déjà vécu personnellement ou vous l'avez vu?
Pardon?
Vous l'avez vécu personnellement, vous avez été
au grand marché, j'étais une fois au grand marché, j'ai vu des policiers qui étaient partis arrêter des gens et qui commençaient à administrer des coups sur des gens. Alors vraiment c'est effrayant ce genre de pratiques. Et je voulais encore dire une chose, vous savez, sur le plan international, d'ailleurs, ces pratiques sont interdites dans la Déclaration universelle des droits de l'homme en son article 6. Alors, notre État, étant que signataire de ce traité, reconnaît aussi ce genre de reconnaît aussi dans son droit positif la même application de ce genre de pratiques dans son article 16. Alors, moi, je constate que dans la pratique, il y a violation même de cette disposition de la Constitution qui interdit ce genre de pratiques.
Voilà, Je vais aider les auditeurs, hein, l'article 16 de la Constitution de la RDC.
16.
Oui, l'article 16, justement, en son alinéa 4, dit ceci: nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain et dégradant.
Oui.
Voilà. Et qu'est-ce que vous, rapidement, alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour bannir, alors, cette pratique de la RDC?
Alors, pour lutter contre cette pratique, il faut interpeller les autorités politiques à respecter les textes. Et aussi, nous demandons aux victimes de ce genre de pratique de dénoncer souvent les auteurs de ces actes pour qu'ils soient déférés devant les instances judiciaires afin de purger leur peine.
Voilà, merci. On retient que les victimes doivent dénoncer les auteurs de ces actes de torture et l'État doit intervenir pour cela. Merci beaucoup de nous avoir appelés de Kinshasa, Aimé. Au revoir.
Parole aux auditeurs.
Un second auditeur, c'est là, il intervient par sort de Guémena dans la province de l'Équateur. Bonjour Félix.
Bonjour, bonjour journaliste.
Alors, vous êtes du même avis que Aimé de Kinshasa qui venait d'intervenir?
Parfaitement, je suis du même avis que Madame Aimé de Kinshasa. Elle a raison de pouvoir nous dire ça. Parce que vous savez, ici, spécialement à Guémena, nous sommes dans le sud d'Ubangi, où les gens continuent à vivre sous la crainte perpétuelle. C'est comme si nous appartenions encore à la Deuxième République. Les gens ne savent pas que les choses ont changé et que nous sommes déjà à la Troisième République, dans la Troisième République, et que les droits de l'homme doivent être respectés. Sauf que ce que je voulais vous préciser est qu'ici, ce n'est pas seulement la police qui applique la torture. Ici, quand on arrête quelqu'un, il suffit seulement de suivre voleur d'Oïb, alors qu'est-ce que les gens font? Et même les villageois se jettent aussi ces gens-là, ils commencent à les tabasser, à les frapper comme ils veulent, et la police aussi, et c'est grave, c'est que je vous dis, c'est grave. Et même à la police même, qu'est-ce qu'on voit? Il y a des petites prisons qui mesurent au moins 2 mètres carrés ou 3 mètres carrés avec une longueur de 1 mètre 50 ou 60 où on coffre des gens pour de long moment, c'est-à-dire dépasser même le période des 48 heures. Vraiment, c'est grave, c'est grave. Il faut interpeller le gouvernement qui ne sait pas encore se mettre à la page de son travail parce que les droits de l'homme n'est pas respecté. Et même moi qui vous parle de justice syndicaliste dans les entreprises, il y a des employés qui vont jusqu'à tabasser ou même gifler des travailleurs. Donc la dignité humaine n'est pas respectée.
Voilà. Donc, est-ce que vous, personnellement, vous avez déjà subi un cas de torture?
Oui, j'ai assisté à beaucoup de cas de torture. Il y a deux jours, j'ai assisté à un cas où un policier tabassait, il chifflait un prévenu pour un problème de machette, alors que le prévenu était seulement le serreur.
Merci beaucoup, Félix, pour votre témoignage depuis Guémena, dans la province de l'Équateur. Je retiens de vous qu'il n'y a pas que les forces de sécurité qui pratiquent parfois la torture, mais il y a aussi la population qui, en se faisant justice, également torture les autres. Merci beaucoup d'être intervenu depuis Guémena, dans la province de l'Équateur. Nous allons maintenant descendre à Kisangani, où est déjà en place Georges. Bonjour, Georges. On vous écoute. Allô, Georges, vous êtes en ligne?
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Bonjour, Georges, vous intervenez depuis Kisangani, on vous écoute.
Oui.
Georges, s'il vous plaît, éteignez votre radio. Vous pouvez nous suivre à travers votre téléphone. Vous n'avez pas besoin de nous suivre à travers le haut-parleur de votre radio.
Merci beaucoup, d'accord.
Éloignez-vous de votre radio.
Monsieur le journaliste, j'ai un peu du mal à préciser la torture. C'est comme si, en suivant mes intervenants,
oui,
on est en train de parler seulement les rapports des militaires envers la population.
Mm-hmm.
Alors que la torture, on peut la connaître de plusieurs manières. Même mm-hmm. entre les civils,
oui,
même entre les hommes en uniforme. Bon, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez peut-être me préciser dans quel cas on est en train de débattre de cette émission.
Voilà, si vous avez suivi le précédent auditeur, il a dit que la torture n'est pas simplement exercée par des hommes, par certains hommes en uniforme, mais aussi la population en se faisant justice, en tabassant par exemple les voleurs qui sont arrêtés, la population s'y torture.
Ok, ok. Merci beaucoup pour la précision.
Mmh.
Mais dans tous les cas, monsieur le journaliste, moi je vais condamner en quelque sorte le gouvernement. Parce que dans tous les cas, s'il y a l'impunité, vous verrez que ces gens-là vont continuer avec leur sale besogne. Il faut qu'on arrive quand même à changer des choses. L'impunité bat son plein ici au Congo. On ne comprend pas. Qu'est-ce qu'on peut mettre face à ça?
Merci beaucoup. Je retiens que pour vous, il faut, pour abolir la torture dans notre pays, la RDC, il faudrait que le gouvernement congolais bannisse l'impunité. Merci beaucoup pour votre apport, Georges. Je rappelle que vous interveniez depuis Kisangani dans la province orientale. Merci, au revoir.
Parole aux auditeurs.
Voilà, nous espérons toujours que le ministre des Droits Humains, Oupio Kakoura, qui nous avait donné son accord, va pouvoir intervenir dans cette émission pour donner quelques précisions et des éclaircissements, des propositions, des solutions du gouvernement face à ce problème. Mais il n'est pas encore intervenu. Dans l'entretemps, nous sommes avec Monsieur Fernandez Mourola. Vous êtes chargé des programmes du RENADOC. Et vous êtes également vice-président du réseau des organisations de lutte contre la torture en Afrique centrale, Voltat. Est-ce que vous pouvez commenter un peu ce que la population ou les auditeurs viennent de dire, en quelques mots?
Oui, en fait, les auditeurs n'ont pas une conception réelle de la torture, mais ils subissent les violences au quotidien. Ils savent ce que la torture au sens vulgaire. Mais la torture, c'est un concept conventionnel. Donc c'est un concept qui est repris dans plusieurs instruments juridiques nationaux, régionaux, internationaux, et pour lesquels notre pays a souscrit. Et donc par exemple, nous pouvons dire que du fait que le droit de ne pas être torturé constitue l'un des droits intangibles faisant partie des droits de la personne humaine, ce droit doit être protégé en toutes circonstances, y compris en période de conflits armés ou de crises politiques internes.
Ça, c'est la Constitution qui le dit également. Hein.
Oui, c'est pas
même en temps de guerre, même en, pendant l'état de siège, donc la Constitution ne permet pas de torturer.
On dit que ce sont des droits qu'on appelle de la torture, c'est l'interdiction de la torture, de l'utilisation de la torture est une règle non dérogeable du droit international.
Mmh.
Donc ça signifie ce que je viens de dire tantôt. Et donc si vous prenez par exemple la Convention contre la torture et autres peines cruelles, inhumaines ou dégradantes, précise sans équivoque qu'aucune circonstance exceptionnelle, quelle que soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de tout autre état d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture. La Convention précise encore que l'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture. Cet instrument international adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies, par sa résolution 3946 du 10 décembre 1984, est entré en vigueur le 26 juin 1987 et a forcé de loi la République démocratique du Congo depuis sa ratification suivant l'ordonnance loi de février 1980.
Voilà, je précise aussi que l'article 61 de la Constitution dit que la torture est prohibée, même pendant l'état de siège ou l'état d'urgence. Donc, il interdit d'utiliser la torture. Mais monsieur Ferdinand Mourola, on a suivi Félix de Guémena qui dit que la population aussi pratique la torture. Parce que quand elle attrape un voleur, elle se fait justice. Parfois, elle tue même ce voleur. Est-ce que c'est une forme aussi de torture qu'il faut condamner?
Oui, il faut condamner ça parce que ça
est-ce que c'est une forme de torture quand la population se fait justice aussi,
Edna? Oui, quand la population se fait justice, cela veut dire qu'il y a déficit d'administration de la justice quelque part, et ce qui fait que ceux qui répondent directement de ces déficits, c'est l'État. Et donc on peut dire que c'est aussi la torture. Donc de manière générale, on entend par victime de la torture une personne qui, par suite d'actes ou d'omissions, constitue une violation des normes du droit international humanitaire ou des droits de l'homme, a subi individuellement ou collectivement un préjudice, notamment une atteinte à son intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle ou une atteinte à ses droits fondamentaux.
Ben, il faut expliquer ça en des termes simples pour le commun.
Donc on dit que toute personne, par exemple, la torture a plusieurs dimensions. Il y a quand les gens font allusion à la torture, ils font seulement allusion à la torture physique. Mais la torture, elle est également mentale, la torture, elle est également psychologique, la torture peut être individuelle ou collective.
Dans quel sens? Par exemple, mentale,
les populations déplacées de guerre,
ouais,
qui se retrouvent dans un camp. Ils ont abandonné leur bien pendant plusieurs mois.
Ouais.
Ils vivent dans des conditions inhabituelles. Ça, là, on fait allusion à ce qu'on appelle la torture collective. La violence sexuelle,
ouais,
c'est un élément, qui constitue un élément pur et simple de la torture.
Voilà, merci. On a certains auditeurs en ligne, mais on va les prendre dans une poignée de secondes.
Le magazine Association, c'est votre rendez-vous avec les décideurs et les acteurs sociaux. Santé, économie, transport, éducation, travail, parler des problèmes qui vous concernent sur votre radio. De lundi à vendredi, venez nous rejoindre à partir de 9h, heure de Kinshasa. Au Café Action, le magazine de la vie au quotidien. Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet ca@radiookapi.net.
Si vous avez pris en cours cette émission Parole aux auditeurs, l'émission de Radio Capi qui vous permet d'intervenir en direct sur nos antennes, je vous rappelle notre thème du jour. Demain 26 juin 2009, c'est la journée internationale de lutte contre la torture. Est-ce que la torture est pratiquée en RDC? Et si c'est le cas, que faire pour bannir de la RDC cette pratique digne d'un autre siècle, la RDC ayant choisi par sa constitution d'être un état de droit? Parole aux auditeurs vous donne de réagir en direct sur ce thème en nous appelant au 081-99-77-800 et dès que vous nous appelez, nous vous rappellerons tout de suite après. L'autre possibilité, c'est de nous communiquer votre point de vue sur cette question ou votre désir de participer en direct en nous envoyant simplement un SMS au 09 98 999 222 09 98 999 222 et par internet, envoyez-nous votre opinion sur cette question ou votre intention de participer à cette émission à l'adresse pa@radiookapi.net. Voilà, et nous avons comme invité monsieur Fernandez Mourola, qui est chargé des programmes du RENADOC. Il est également vice-président du réseau des organisations de lutte contre la torture en Afrique centrale, ROLTAC. En principe, nous devions également avoir dans cette émission le ministre Oupio Kakoura, ministre des droits humains, qui nous avait donné son accord. On attend toujours sa participation, même au téléphone. Voilà, donc on a en ligne Jean-Pierre de Kinshasa, Ignace Kikuité, Benjamin Dissir. On commence par vous, Jean-Pierre de Kinshasa. Bonjour d'abord. Quel est votre avis sur cette question?
Oui, bonjour Claude.
Bonjour.
Je voudrais dire ceci à Monsieur Fernandez, voilà. Les formes de torture, il y en a plusieurs, mais lorsque un gouvernement ne reconnaît pas les droits, ne garantit pas les droits de vie, bon, le droit à la vie de ses administrés, à quelle institution on peut s'adresser, parce que nous avons compte de plus en plus qu'il y a beaucoup de cas de violation des droits par les pouvoirs publics sur les populations. Par exemple, nous connaissons beaucoup de cas, il y a de mauvaises conditions de vie.
Jean-Pierre, on ne vous entend pas très bien.
Tout cela entraîne le stress, je vous en prie.
On ne vous entend pas très bien, est-ce que vous pouvez vous déplacer un tout petit peu?
Oui.
Sortir de l'endroit où vous êtes.
Ça va maintenant?
Si vous pouvez sortir, peut-être que vous êtes dans un endroit bétonné, si vous pouvez sortir.
Ok, ok, je vais le faire tout de suite.
Allez-y.
Oui, je disais ceci, Claude,
oui.
Il y a plusieurs formes de torture, et généralement, nous avons des problèmes collectifs. Par exemple, il y a un gouvernement qui n'arrive pas à garantir les droits de ses administrés. Il y a, par exemple, ici, il y a violation collective. Alors, je me demande, je pose la question à M. Ferdinand Mourola, à qui on peut s'adresser lorsque les pouvoirs publics ont violé les droits à la vie d'une frange de la population. À qui peut-on s'adresser? Si c'est le gouvernement qui est concerné, est-ce qu'on peut s'adresser au même gouvernement qui va être jugé parti à la fois, ou bien il y a d'autres institutions nationales ou internationales qui peuvent intervenir? Voilà, c'est ça ma préoccupation. Là, je m'adresse à M. Fernandez, mais j'aurais bien voulu aussi m'adresser au ministre qui va être là, on l'attend avec impatience, parce qu'il y a des choses que nous constatons qui en principe devraient être dites à haute aujourd'hui à travers cette émission.
Merci beaucoup. On vous garde encore à l'écoute. Le temps que M. Fernandez Mourola puisse répondre à vous, vous répondre, M. Jean-Pierre, rapidement.
Oui, je partage la préoccupation de Jean-Pierre. Il est vrai que les recours des victimes de la torture sont généralement freinés, voire empêchés pour différentes raisons. D'abord, il y a lieu de relever l'ignorance par les victimes de leurs droits. Deuxièmement, il y a réticence des autorités d'ouvrir une enquête dans la mesure où les auteurs des actes de la torture ont la qualité d'agent public. Troisièmement, il y a l'absence d'indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis de l'exécutif. Et enfin, l'absence du contrôle des parquets sur les officiers de police judiciaire des services de sécurité. Ce sont là les difficultés majeures que nous rencontrons régulièrement. Mais quand cela n'est pas, si le système judiciaire congolais ne marche pas, il y a d'autres mécanismes auxquels on peut s'adresser, notamment on peut recourir auprès du Comité des Nations Unies contre la torture, on peut recourir auprès de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc on peut utiliser ce mécanisme régional et international pour faire entendre la voix.
Monsieur Fernandez Mourola, est-ce que la torture est érigée en infraction ici en République démocratique du Congo?
La torture en tant que telle n'est pas érigée en infraction, c'est ça malheureusement.
Pourquoi?
Mais c'est parce que tout simplement au niveau de la République démocratique du Congo, on n'a pas encore intégré, on n'a pas encore mis sur pied, on n'a pas encore adopté une loi spécifique pour la torture.
Et pourtant, la RDC a souscrit à la Convention des Nations Unies contre la torture et à plusieurs autres conventions, à la Charte des droits de l'homme.
Exactement.
Au niveau de l'Afrique et au niveau international.
Mais je peux renchérir en disant que même le Comité des Nations Unies contre la torture, lorsque le gouvernement de la RDC avait soumis son dernier rapport périodique en novembre 2005, avait à transmettre au gouvernement une série d'observations pertinentes que le gouvernement n'a jamais appliquées. Nous pouvons citer entre autres On avait demandé au gouvernement de la RDC d'adopter une définition de la torture qui englobe tous les éléments constitutifs qui figurent à l'article 1er de la Convention et de modifier son droit pénal interne en conséquence. On avait demandé à notre pays de veiller à ce que les actes de la torture constituent des infractions relevant de sa compétence conformément à l'article 5 de la Convention. On avait demandé à la RDC de garantir l'application de la Convention, notamment à ses articles 6 à 9. On avait demandé à la RDC de prendre des mesures effectives pour prévenir tout acte de torture et tout mauvais traitement dans tous les territoires sous sa juridiction. On avait demandé aussi à la RDC de prendre des mesures énergiques pour que soit éliminée l'impunité des auteurs présumés d'actes de torture et de mauvais traitement, que des enquêtes promptes, impartiales et exhaustives soient menées à ce sujet, que les auteurs de ces actes soient jugés et qu'ils soient reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées et que les victimes soient convenablement indemnisées. Mais il y a toute une série de recommandations qu'on avait fait au gouvernement par rapport à la problématique de la torture dans ce pays, mais le gouvernement n'a jamais répondu à une quelconque préoccupation.
Voilà, rapidement, avant de prendre Jean-Pierre de Kinshasa, M. Fernandez Moureau, là, vous voulez dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un, par exemple, qui appartient à un service de l'État, commet, par exemple, des actes de torture, cette personne-là ne peut pas être condamnée par la justice congolaise parce que la torture n'est pas une infraction dans la loi congolaise?
Non, c'est tout ça. Donc, j'ai démontré les faiblesses de notre...
Non, je pose une question. Donc, aujourd'hui, si un agent public commet des actes d'infraction, il ne peut pas être condamné parce que la loi congolaise n'érige pas en infraction la torture.
Non, il y a des freins. Logiquement, il doit être condamné.
Logiquement, mais est-ce que ça se fait?
Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas.
Pourquoi?
Parce qu'il y a, je peux vous donner par exemple les cas, sur le plan national par exemple, il y a le décret numéro 003/2003 du 11 janvier 2003 qui portant création et organisation de l'Agence nationale de l'enseignement, stipule en son article 23 que les officiers de police judiciaire de l'Agence nationale de l'enseignement sont dans l'exercice des fonctions attachées à cette qualité, placées sous les ordres de la surveillance exclusive de l'administrateur général et accomplissent leur mission de police judiciaire dans le respect des lois et règlements. L'article 26 du même texte porte que les officiers de police judiciaire et du ministère public, avant d'interpeller ou de poursuivre les agents et fonctionnaires de l'ANR pour les actes accomplis, donc les actes de torture dans l'exercice de leurs fonctions, doit demander l'avis préalable de l'administrateur général de l'ANR, les officiers de police judiciaire ou du ministère public, avant d'interpeller ou de poursuivre les fonctionnaires de l'Agence nationale de renseignement pour les actes n'ayant pas trait à l'exercice de leurs fonctions, doivent en informer également préalablement l'administrateur général. Donc vous comprenez, et dans la plupart des cas, ce sont les services de sécurité qui pratiquent de manière outrancière la torture, mais le procureur général de la République n'a pas les pouvoirs réels pour...
Est-ce qu'il a déjà essayé, par exemple?
Bon, je n'ai pas des cas où il a déjà essayé, mais je sais que...
Donc, on ne peut pas dire que l'administrateur général de l'ANR avait refusé.
Non, c'est-à-dire que même s'il doit essayer, il doit d'abord se référer à ce subalterne. Ce qui n'est pas normal.
Merci beaucoup.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet ca@radiookapi.net.
Voilà, Jean-Pierre, est-ce que vous êtes satisfait?
Oui, je suis satisfait, mais j'aurais bien voulu que pendant que M. Fernandez parlait, que le ministre soit là.
Exactement, j'espère qu'il va appeler.
Je ne pense pas parce que bientôt on va être vers la fin de l'émission. Bon. Parce qu'il y a une forme de torture dont on ne parle pas assez souvent. Il s'agit de cette façon de maltraiter les populations par les pouvoirs publics. Nous sommes des êtres humains, nous sommes des intellectuels, nous subissons, mais à un moment donné, nous devons avoir des explications de la part des pouvoirs publics qui doivent chercher à changer les méthodes de gestion des ressources nationales. Mais nous sommes là exposés longuement et nous nous plaignons, mais la solution ne vient pas. Si le ministre était là, nous aurions souhaité vraiment que lui réponde à la place de M. Ferdinand Moura, parce qu'on ne peut pas continuer à accepter d'être torturé moralement, mentalement, psychologiquement, physiquement. Il y a des gens qui meurent à cause de ce genre de traitement. Alors nous voulons savoir si
le gouvernement prend des dispositions pour mettre fin à ce genre de traitement
voilà.
Qu'on réserve aux populations nationales.
Merci Jean-Pierre. C'est pourquoi d'ailleurs on avait voulu que le ministre des droits humains intervienne dans cette émission pour que nous puissions respecter le principe d'équilibre journalistique. D'un côté qu'on est un défenseur des droits de l'homme et de l'autre côté qu'on est également la voix du gouvernement. Merci pour votre contribution. Ignace, vous êtes à Tikrit. Bonjour, quelle est votre contribution?
Bonjour, Claude Ganga. Bonjour.
Allez-y, on vous écoute.
Je serais de vous rappeler que cette émission est très bien accueillie dans les milliers des auditeurs avertis de Radio Capi.
Merci.
Partout en RDC, pourquoi pas dans le monde. Bon, je vais abonder dans mon sens, dans mon intervention, dans le même sens que mon prédécesseur.
Oui.
Alors, je disais qu'en dépit de ce que l'on semble appeler présomption d'innocence avant le jugement, dans notre pays, les accusés subissent de sérieuses tortures de la part des agents de l'ordre mis à leur disposition. Frappes, tracas ou menottes et toute autre forme de menace. En plus de cela, les 10 agents de l'ordre exigent volailles, petits ou gros bétails et d'importantes sommes d'argent, quelquefois en complicité avec leur hiérarchie. Si vous osez leur rappeler, leur expliquer l'article 16 de la Constitution, il vous calomnie auprès de cette hiérarchie qui les encourage dans cette démarche. Ce qui est décevant, Claude, c'est le fait que, malgré vos multiples réactions à travers vos médias, tant locaux, provinciaux, nationaux qu'internationaux, les concernés font la sourde oreille et foulent aux pieds toutes les allégations et persistent dans ce comportement inhumain, surtout dans
Ignace,
le
Ignace, est-ce que vous avez déjà subi un cas de torture à Tikrit au Bangui?
Personnellement, je n'ai pas subi, mais je vécu ça en ma présence. C'est une pratique fréquente dans nos prisons.
Et c'était quoi ce que vous avez vécu en votre présence?
Donc, on donne une convocation ou un mandat, je ne sais pas comment il faut-il l'appeler, au lieu que les forces de l'ordre s'appliquent à déposer le document chez l'accusé et l'amener à qui les droits pour le jugement, mais déjà, on lui demande les frais de placement et ce que je vais le présenter là-bas. Et quelquefois, quand il persiste, on commence à les torturer, à les frapper comme ça.
Merci beaucoup d'être intervenu depuis Tikrit. Merci pour votre contribution. Au revoir Ignace et bonne journée à tous ceux qui nous suivent dans cette partie du pays. Alors nous allons maintenant nous rendre à Issiro dans la province orientale où nous avons déjà un comité d'accueil. Benjamin est là pour nous accueillir. Bonjour Benjamin, est-ce que vous êtes d'accord avec le précédent auditeur?
Oui, je suis tellement d'accord avec lui. Il a bien dit, il a dit là, ce qu'on voit ici.
Auguste, Benjamin, on ne vous capte pas très bien. Est-ce que vous pouvez vous déplacer un tout petit peu, sortir du lieu où vous êtes? Peut-être que vous êtes dans un lieu, dans une maison. Est-ce que vous pouvez aller à l'extérieur, s'il vous plaît? Allez-y, essayez de parler. Vous êtes très, très loin de Kinshasa.
Ce qu'il a dit, c'est vrai. Je sais qu'on est de vivre ici. Il n'y a pas de cacasserie.
Voilà, Benjamin, la réalisation va tenter de vous rappeler plus tard. En attendant, nous allons nous rendre à Mbandaka dans l'Équateur, où nous avons déjà au bout du fil Emina. Emina, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Claude Kianga.
Est-ce que la torture existe là-bas chez vous, en Mbandaka, dans l'Équateur?
Oui, monsieur Claude, la torture existe depuis, donc la torture est devenue de plus en plus dramatique, surtout dans la ville de Mbandaka.
Vous pouvez nous donner quelques cas précis, quelques exemples?
Oui, même il y a un exemple, subitement, ici à Mbandaka, il y a une maman qui avait torturé son fils, et puis il y a aussi des militaires à Mbandaka 3 qui avaient tabassé vraiment un garçon de 19 ans, son nom c'est Pichou. Donc la torture est devenue vraiment de plus en plus dramatique. Même si les ateliers de sensibilisation se font, mais la pratique de la torture en Mbandaka augmente toujours. Donc on ne sait pas même compte, comme il prévoit notre constitution dans son article 16, qui stipule la personne qui est sacrée. L'État doit l'obligation de la respecter et de la protéger. Donc, monsieur le journaliste, dans le même article, à l'alinéa 1, 2, 3, qui souligne la tenue de la personne en esclavage, au traitement cruel inhumain, aux travaux forcés ou obligatoires. Mais l'État congolais, dans la province de l'Équateur, pratique tout cela. Alors, les droits de l'homme au Congo.
Vous en avez des preuves? Vous avez des preuves?
La vie du Mbandaka.
Comment vous dites? Oui, Emina, vous dites que l'État. Emina, on ne se coupe plus.
Oui.
Vous dites que l'État congolais pratique cela. Est-ce que vous avez des preuves? On n'est pas accusé pour accuser.
Ok, non, nous avons les preuves. Parce que tous ces mondes-là qui pratiquent la torture, ils sont là sur place, ils sont ici sur place dans la ville de Mbandaka, mais ils ne sont pas arrêtés. Les victimes sont là, ils ont accusé les auteurs, mais les auteurs ne sont pas arrêtés. Ça, c'est des preuves.
Voilà.
Et donc, les droits des hommes au Congo ne sont pas respectés. Même si on se réfère à la Déclaration universelle des droits de l'homme, du 10 décembre 1948, dans les premiers articles jusqu'au 30e article, tous ces articles sont bafoués par l'État congolais. Mmh. Donc, je regrette beaucoup si M. Fernandez et Moïla disent que non, il y a la torture. La torture n'est pas une infraction. Mais si la torture a causé la mort, ça devient une infraction.
Non, donc, il dit que dans la loi congolaise actuellement, si je l'ai bien compris, la torture n'est pas encore considérée comme une infraction. Donc l'État ne réprime pas les actes de torture. Ce n'est pas lui qui le dit, c'est ce qui se fait.
Ok, effectivement. Mais si il y a aussi des tortures, il y a des tortures physiques qui se font. Des tortures physiques, il y a des tortures gestuelles.
Voilà, Emina, vous êtes en Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Félix nous a appelé de Guémena, toujours dans votre province, l'Équateur, et il nous a dit qu'il y a à Guémena là-bas des petites prisons, hein, des 3 mètres carrés avec une longueur de 1,50 m. Est-ce que, en Mbandaka, vous connaissez également ce genre de cachots?
Effectivement, en Mbandaka, il y en a. Comme je parle des torpilles psychologiques, dans notre prison ici, il y a les gens, les détenus ou les condamnés, ils ne sont pas bien mangés, donc on ne donne pas la nourriture aux condamnés. Ça, c'est une torture psychologique ou morale. Ça, c'est une torture psychologique ou morale. Donc, pour conclure, M. Claude, nous voulons seulement orienter le gouvernement de mettre les articles de la Constitution, de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la Charte internationale des droits de l'homme et de l'enfant en pratique. Pas seulement par la théorie. Si on serait comme un État sans loi où n'importe qui peut venir faire n'importe quoi.
Merci beaucoup, Elina, pour votre appel et bonne journée chez vous à Mbandaka. Je reviens à vous, Fernandez Mourola. Je rappelle que vous êtes vice-président du réseau des organisations de lutte contre la torture en Afrique centrale, Volta. Dans nos prisons, dans certains cachots, lorsqu'on vous arrête, quand il faudra sortir, souvent, certaines personnes donnent de l'argent, remettent de l'argent aux force de l'ordre. Est-ce que cela peut être considéré également comme un cas de torture?
Oui, tout à fait. C'est de la torture psychologique ou mentale. Donc,
est-ce que ce n'est pas une amende?
Non. Les amendes, on ne les perçoit pas comme ça.
On les perçoit comment?
Les amendes sont...
On doit vous donner un refus.
Exactement. Les amendes sont bien documentées. C'est pas on donne à un policier, il met dans sa poche. C'est pas comme ça que ça fonctionne. De toute manière, nous avons beaucoup, au niveau du réseau des organisations de lutte contre la torture en Afrique centrale, nous avons beaucoup des centres de réhabilitation des victimes de la torture. Nous recevons des milliers de cas. Je vous dis que la torture est une réalité dans cette région d'Afrique centrale en général et dans notre pays en particulier. Donc que vous partiez par exemple ici à Matadi, nous avons un centre pour la réduction des victimes de la torture à Kinshasa ici, nous en avons également, et à Lubumbashi la même chose. Et quand vous visitez tous ces centres, vous allez voir les dossiers, les gens qui viennent, qui arrivent, c'est inimaginable. Donc la torture, elle est réelle. La République démocratique du Congo a les droits et l'obligation d'appliquer rigoureusement toutes les recommandations du Comité contre la torture des Nations Unies, de traduire en acte la Convention contre la torture à laquelle notre pays a librement consenti. Même notre constitution, vous savez, interdit la torture, mais sans citer la torture, interdit la torture en disant que, par exemple, le droit à l'intégrité physique. Hein? Mais ils ont fait allusion à la torture sans vouloir citer ce concept.
Et pourquoi?
Ah, c'est la grande question que nous posons.
Voilà, merci.
Parole aux auditeurs.
Je rappelle à tous ceux qui viennent de prendre cette émission en cours que nous parlons dans cette émission Parole aux auditeurs de la journée internationale de soutien aux victimes de la torture. Donc c'est demain cette journée, mais aujourd'hui nous parlons justement de la torture. Est-ce que la torture est pratiquée réellement en RDC? Et si c'est le cas, que faire pour bannir de ce pays cette pratique digne d'un autre siècle, la RDC ayant choisi par sa constitution d'être un état de droit? Votre opinion et vos différents témoignages sur cette question sont les bienvenus dans cette émission. Et si vous voulez intervenir en direct, vous avez un numéro, un seul numéro, le 081-99-77-800, et par SMS, vous pouvez nous envoyer votre opinion au 09-98-999-222, et si vous avez accès à l'internet, vous pouvez nous envoyer votre réaction à l'adresse pa.paroleauxauditeurs@radiookapi.net. Et dans cette émission, nous avons comme invité Monsieur Fernandez Mourola. Il est vice-président du réseau des organisations de lutte contre la torture en Afrique centrale, ROLTAP. Nous devions également avoir dans cette émission le ministre Maître Oupio Kakoura, ministre des droits humains du gouvernement central, qui nous avait donné son accord. Malheureusement, il n'a pas pu intervenir. On espère qu'avant la fin de cette émission, il va peut-être nous appeler pour pouvoir intervenir et répondre aux questions de certains auditeurs. Voilà, nous avons en ligne Mouchemouna, il est au Katanga, plus précisément à Nyuzu, et Rachid de Lubumbashi au Katanga. On commence par vous, Mouchemouna, vous êtes à Nyuzu. Bonjour d'abord.
Bonjour.
On vous écoute. Oui, ça va bien. On vous écoute, vous êtes dans l'émission Parole aux auditeurs. On parle de la torture. Qu'est-ce qu'il faut pour bannir cette pratique de la RDC? Est-ce que ça existe chez vous là-bas, Nyuzu? Dans quel sens? On ne vous entend pas très bien. Parlez un peu fort.
Ça existe, ça existe.
Et ça existe de quelle manière?
De manière, vous mettez, de la manière que vous utilisez là.
Ok.
Voilà, merci beaucoup de nous avoir joints depuis... Oui, merci Mouchemouna de nous avoir joints depuis Nyuzu au Katanga. Rachid, vous êtes en ligne, vous êtes à Lubumbashi?
Oui, je suis en ligne, monsieur Fonsiaga, je vous écoute. Oui.
Bonjour, quelle est votre contribution? Est-ce que vous connaissez également ce cas de torture à Lubumbashi au Katanga?
Oui, moi je voulais parler sur un autre volet, abondant aussi dans le centre de monsieur Jean-Pierre de Kinshasa. Hein.
Oui.
Personnellement, je voulais parler du genre de torture à caractère social. Hein.
Oui.
Parce qu'il n'y a pas que des tortures physiques, la torture physique. Il y a aussi les cas, par exemple, dans les entreprises. Hein. Nous savons qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois et il n'y a plus d'emplois ces derniers temps au Congo. Mais quand on menace quelqu'un de le licencier, ça c'est aussi une torture. Et quand il est licencié, quand bien même qu'il est licencié, on ne sait pas le payer. Et ce qui peut torturer mentalement, socialement, quand il ne sait pas payer les études des enfants, il ne sait pas se faire soigner, et il pique une crise, par exemple, d'hypertension, et il en meurt. Je crois que c'est plus fort que les séquelles physiques qu'on a dans la torture physique. Hein. C'est un peu dans ce sens-là que je veux dire, je crois que tous les Congolais sont torturés socialement.
Merci beaucoup.
Alors, qu'on en parle et que le gouvernement sente que voilà, tous les Congolais sont torturés mentalement, socialement, et c'est plus que la torture physique, ça.
Voilà, merci beaucoup. Vous apportez une autre dimension à la torture qui est aussi vue sous le plan social. J'espère que les ministres ayant en charge les questions sociales sont bien placés pour pouvoir y répondre. Merci toutefois pour votre contribution. Au revoir. Nous avons Franck qui intervient depuis l'Allemagne. Bonjour Franck.
Oui, bonjour monsieur.
Voilà, quelle est votre contribution à partir de l'Allemagne? Vous êtes précisément dans quelle ville en Allemagne?
Je suis dans la ville de Ulm.
Ulm.
Dans l'état de Baden-Württemberg, oui. La ville natale de Albert Einstein.
Ah, oui, c'est grand savant. Merci, on vous écoute maintenant.
Oui, moi je crois que les actes de torture au Congo, ils existent partout. Hein. Dans un pays où les pillages se font à terre en contre-temps, je ne sais pas si on tient aussi toujours compte des états de ces victimes de pillages. Quand on pille quelqu'un en cours de route, c'est aussi une manière de les torturer parce que ce sont des actes qui remettent en question les droits de l'homme. Et quelqu'un, un citoyen qui se promène librement dans la ville de Kinshasa ou bien en plein voyage, s'il est pillé contre sa volonté, c'est aussi une manière de le torturer. Et moi qui vous parle, j'ai été victime d'un pillage. C'était le 26 juin 2004.
Où c'est?
C'était parfois ridicule.
C'était où?
Si je dois encore repenser tout ce qui m'est arrivé cette nuit-là, c'est pas facile à décrire. Hein.
C'était ici au Congo? C'était au Congo?
Pardon?
C'était au Congo?
Oui, c'était au Congo. C'était au Congo.
Voilà. Mais nous parlons plus des tortures sous le plan physique, hein, qui peuvent entraîner la mort, parce qu'il y en a qui sont morts également suite à des tortures. Est-ce qu'en Allemagne aussi, il se pratique aussi la torture sous le plan physique?
Bon, ça c'est pratique, mais c'est pas toujours visible. On suit ça toujours, mais s'il y en a comme ça, les policiers doivent être vraiment sanctionnés. Mais ce qui se passe chez nous au Congo, sur le plan physique, on ne peut pas toujours le comparer avec ce qui se passe ici. Parce que ici, on arrive quand même à respecter les codes des droits de l'homme. Mais chez nous, quand par exemple on va piller un citoyen, il est agressé jusqu'à avoir peur de la mort, ce sont des actes de torture. Moi, il y avait des militaires qui nous ont brandi des armes. Et ils nous ont ravi tout ce que nous avions.
Et qu'est-ce que vous proposez alors pour mettre fin à ce phénomène de torture en RDC?
Moi, je crois qu'il faut d'abord qu'on respecte tous les textes légaux. Tous les textes, la Constitution, tous les textes, il faut que ça puisse être respecté. Il ne faut pas que ces textes-là existent seulement pour les petits peuples et pour ceux qui doivent être là pour les garantir et ils en passent outre. Oui, il y a toujours des inégalités qui se commettent et c'est comme s'il y a deux peuples. Il y a un peuple qui doit vraiment observer toutes les lois, il y a un autre peuple qui n'a rien à faire avec toutes ces lois-là. Mmh. Je crois que tout ce que les autres intervenants ont dit, c'est tout ce qui doit être fait. Le respect des textes, il faut vraiment bien appliquer la Constitution.
Voilà.
Il n'y a pas autre chose, sinon le respect des textes. Et dans un pays où les textes ne sont pas vraiment respectés, c'est difficile d'arriver quand même à faire fonctionner tout ce qu'il y a là comme structure.
Mais est-ce que certains pays sous-développés ou certains pays qui sont sous la voie démocratique peuvent se justifier en parlant de ce qui s'est passé par exemple à Guantanamo où l'armée américaine a aussi torturé? Est-ce que c'est une justification pour permettre des tortures ici en Afrique?
Ouais. Je ne suis pas là comme expert des questions internationales ou quoi, j'interviens comme Congolais, j'ai été victime d'un pillage et pour moi c'était comme une torture. Et il y a aussi des tortures économiques et quand on nous impose par exemple les règles des jeux qui nous dépassent, ce sont des formes de torture. Mais comme vous parlez de la torture, il y en a qui ont évoqué des tortures psychologiques, morales et il faut aussi ajouter certains éléments. Mais je crois que je ne suis pas là vraiment pour répondre à tout ce qui se passe en Guantanamo. Les Américains font ce qu'ils font, vous le savez mieux que moi. Mais moi, je parle par rapport à ce qui se passe chez nous. Vous avez bien dit la torture en République démocratique du Congo.
Merci beaucoup.
Mais là où il y a des hommes, il y a toujours des situations comme ça. Donc, je n'ai pas dit que dans les États développés, la torture n'existe pas. J'ai bien dit qu'elle existe, mais elle n'est pas toujours très, très visible comme chez nous. C'est
merci
peut-être
beaucoup.
Ça la nuance à toi.
Merci beaucoup d'être intervenu depuis l'Allemagne, en Europe, dans la ville natale du grand savant Albert Einstein. Merci beaucoup, Franck, et au revoir.
Parole aux auditeurs.
Nous avons aimé depuis Boutembo dans le Nord Kivu et Eric depuis Kindu au Maniema. Ce sont les deux derniers auditeurs. Rapidement, Aimé, on commence par vous. Bonjour.
Bonjour.
Allez, on vous écoute. Votre réaction, vous avez suivi les différents auditeurs. Quelle est votre réaction? Êtes-vous d'accord ou non avec l'un ou l'autre?
Bon, beaucoup de réactions ont été données, mais également, moi aussi, j'ai trois formes de torture que je veux relever, qui n'ont pas été relevées depuis les interventions des uns et des autres.
Oui.
Et je trouve que, déjà, la torture scolaire, que les enseignants sont en train de jouer, que les élèves, ils vont se contraindre à des travaux forcés, ça, je considère comme des tortures. Il y a également la torture religieuse, par exemple les pasteurs des églises de réveil ou autres, ils vont demander aux gens de faire des jeûnes pendant 4 jours ou une semaine, sont des tortures. Également, je trouve une torture au foyer, un parent qui va fouetter à mort un enfant comme un serpent, et un jour j'ai assisté une femme qui venait de fouetter son enfant jusqu'au point de lui causer une plaie à la tête, parce que pour une petite cause, une petite erreur. Alors ma proposition, Claude Ganda, je trouve que les gens sont seulement partiels quand ils demandent à l'État de prendre ses responsabilités. Sinon, je dis que toutes les couches de la population doivent être sensibilisées au sujet de la torture, vu tout ce qu'elle renferme comme genre ou forme de torture, tant pour l'État que pour la population civile.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aimé, d'être intervenu depuis Bukavu. On a pris beaucoup de temps. Au revoir à vous. Eric, vous êtes à Kindu. On vous écoute. Bonjour.
Oui, bonjour Claude. Moi, je dirais que la torture au Congo, c'est devenu vraiment un pratique là, surtout les engins de l'ordre, parce qu'ils torturent les gens tout le temps, comme ici à Kindu, il y a des militaires qui partaient pour Chabunga, qui torturaient les gens en cours de route. Les autorités sont là, ils sont en train de voir ça, mais les autorités n'ont rien fait. Un employé qui doit ingérer son employé parce que je sais que nous ne ferons rien parce qu'il n'y a pas de boulot au Congo. Donc moi, je pense qu'on doit d'abord commencer à punir ces gens-là et après sensibiliser la population.
Merci beaucoup pour votre contribution. Je retiens qu'il faudrait la torture devient une pratique courante en RDC, notamment dans la province du Maniema. Il faudrait la combattre en faisant cesser l'impunité. Merci beaucoup, Eric, de nous avoir rejoints depuis Kindu. Je reviens à vous, Fernandez Mourola. Est-ce que les victimes des tortures sont indemnisées par l'État congolais?
Non, ils ne peuvent pas être indemnisés par l'État congolais, d'autant plus que la torture n'est pas reconnue, n'est pas érigée en tant qu'infraction autonome dans le cadre de l'arsenal juridique congolais. Donc il est important qu'au niveau du pays, on arrive d'abord à ériger la torture en tant qu'infraction autonome. Et quand on aura érigé ça en tant qu'infraction autonome, il y aura maintenant des indemnisations.
Mais qu'est-ce qui freine l'État pour ériger la torture en infraction? Est-ce qu'il y a quelque chose qui gêne l'État congolais? Parce que ce sont les populations qui dirigent, qui souffrent, qui meurent parfois dans des cachots. Peut-être à l'heure où nous parlons, il y a des gens qui sont en train de subir la torture dans des cachots souterrains ou bien dans des cachots auxquels la justice n'a pas droit. Je me souviens que le président de la République, Joseph Kabila, tant qu'il est arrivé au pouvoir en 2001, il avait promis d'appeler la presse internationale ainsi que les organisations des Nations Unies qui luttent contre les violations des droits de l'homme à venir constater eux-mêmes la fermeture des cachots illégaux, quoi, qui ne sont pas connus par le ministère de la Justice.
Oui, c'est ça. En fait, vous savez que les tortures, par exemple, corporelles constituent cependant des circonstances aggravantes d'une série d'infractions prévues et punies aussi bien par le code pénal ordinaire que par le code pénal militaire. Il s'agit généralement de l'arrestation arbitraire et de la détention illégale. Le comité des Nations Unies contre la torture avait également recommandé à la RDC de prendre des mesures urgentes pour que tout lieu de détention soit sous autorité judiciaire en accord avec la décision présidentielle à laquelle vous faites allusion du 8 mars 2001.
Est-ce qu'il y a encore des lieux de détention illégaux auxquels même le ministère de la Justice n'a pas accès, ni même les défenseurs des droits de l'homme? Est-ce qu'il y en a encore dans
tout
ce pays?
Tout à fait. Dans ce pays, il y a plus de 200 cachots souterrains. Il y a tous les...
Alors que le chef de l'État avait promis de les faire.
Exactement, rien n'a été fait jusque-là. C'est ça ce que nous regrettons. Et donc, c'est ça la difficulté. Nous-mêmes, nous avons été victimes à notre bureau ici à Kinshasa. Nous avons été attaqués par les soldats de l'ANR. Ils nous ont torturés sur place au bureau et ils nous ont embarqués dans leur cachot. Et nous avons déposé une plainte auprès du procureur général de la République à charge du numéro 1 de l'Agence nationale de renseignement. Mais où est-ce que nous en sommes avec la plainte?
Voilà.
C'est un cas palpable du fait qui démontre à suffisance que la justice n'a pas la même mise sur les cachots qui se trouvent être gérés par les services de sécurité et de renseignement.
Voilà, nous avons quelques mails que nous allons lire rapidement. Carlo Ntumba de Bujumbura pense que la pratique de la torture existe en RDC. Il suffit de vous rendre dans des maisons de détention. Parlons aussi des tortures psychologiques qui peuvent aussi avoir des conséquences néfastes quand les fonctionnaires qui ont des familles restent plusieurs mois impayés, des médecins impayés, etc. Robert de Bukavu pense que lutter contre la torture, c'est bien, mais en punir réellement le plus punir ces pratiques réellement et efficacement les auteurs, c'est mieux. Ah oui, lutter contre la torture, c'est bien, mais punir réellement et efficacement les auteurs de torture, c'est mieux. Machine de Manono Katanga se demande pourquoi les agents de l'ordre sont à la base des tortures. Honorable Rabin, qui ne nous dit pas d'où il nous écrit, pense qu'il s'écrit en disant « Justice militaire, heureusement que la balance en est un symbole. » Ainsi, la centaine de militaires impayés, il y a plus de 8 mois à Bémina, sans parler de policiers disséminés ici et là, n'interpellent personne, alors que l'auditorat militaire est là et le bureau des deux existerait. Richard de Kananga pense que cette pratique est en vogue en RDC, surtout auprès des hommes en uniforme. Il faut voir les policiers quand ils arrêtent ou acheminent un citoyen dans un cachot. On va peut-être terminer avec vous. On remercie Jack de Canada, le docteur Richard de Kinshasa qui nous ont également contactés. Finalement, Fernandez Mourola, c'est ça. C'est quoi la solution pour mettre fin à cette pratique que la Constitution elle-même condamne?
Bon, la première solution, c'est que il faut que la population arrive à s'élever contre la torture. La torture, c'est devenu un fléau dans ce pays. Il faut que tout le monde, sans exception, se mobilise pour dire non à la torture.
Il faut que la population aille porter plainte.
Exactement. Auprès de qui? Non, c'est-à-dire qu'auprès des instances judiciaires qui sont là-bas.
Mais si la torture n'est pas une infraction,
ça
ne servira à rien.
Non, c'est seulement, ce n'est pas une infraction du point de vue du droit interne. Mais la République démocratique du Congo a ratifié la Convention internationale contre la torture, a ratifié la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Il a, d'une manière ou d'une autre, accepté que la torture soit érigée comme infraction parce que les deux instruments juridiques internationaux ont force de loi en République démocratique.
Est-ce que la population peut également saisir la CPI en cas de torture?
Tout à fait, tout à fait. Surtout en ce qui concerne les violences sexuelles.
Merci beaucoup, M. Fernandez Mourola, d'avoir participé à cette émission. Nous aurions bien voulu avoir également la présence du ministre des Droits Humains, Maître Oupio Kakura, qui nous avait promis de participer à cette émission. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Peut-être qu'il est très occupé. Merci beaucoup. C'est ici qu'on termine cette émission. Merci.
Allô? Allô? Il ne répond pas?
Nous terminons par ici cette émission et vous fixons rendez-vous demain, vendredi 26 juin 2009. Nous parlerons des examens d'État, de l'examen d'État qui s'est achevé aujourd'hui dans tout le pays. Quelle évaluation faites-vous de son déroulement? C'est la question que nous débattrons demain avec vous, nos auditeurs. Réagissez dès maintenant en nous envoyant votre opinion sur cette question par SMS au 09 98 999 222 et par Internet à l'adresse ca@radiocapi.net. Si Tim Poutou et Pierrot et Lamégie vous ont préparé cette émission sous la coordination de Ben Kabamba, Sylvain Machine était à la régie pour vous permettre de nous recevoir où vous vous trouvez. Cette émission a été produite en collaboration avec l'unité de formation d'appui aux institutions et éducation aux droits de l'homme du Bureau des droits de l'homme de la MONUC. Au revoir et à très bientôt.